lundi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. C'est les lundis, Maître Marc Bellemare, en espérant qu'il a passé une belle journée. Maître Bellemare, bonsoir.
Allô, comment ça va?
Ça va très bien. On a eu une très belle fin de semaine de notre côté, pas nécessairement côté température, mais ça a été très, très, très achalandé chez nous. On a vu des gens que ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu. Puis hier, j'ai pensé à moi. C'est rare que quand la saison de hockey se termine, Maître Bellemare, là, j'ai un peu plus de temps à me consacrer à moi-même. J'étais allé faire un tour dans le secteur du Mont-Bel-Air. Je sais pas si vous avez déjà été vous promener dans ce secteur-là.
Avec tes gars?
Non, j'étais allé tout seul. J'ai pensé à moi. Fait que j'étais allé m'entraîner un peu. Il pleuvait un peu, mais je me suis dit, c'est pas ça qui va m'arrêter un dimanche. Donc, je me suis habillé en sachant très bien que j'allais revenir à la maison plein de boîtes. Mais j'ai été dans ce secteur-là. Un genre de 5 km, Maître Bellemare, ça a vraiment fait du bien, là.
Oui, bravo. Tabarnouche, là tu es en forme. Là, t'es capable de lever des chevaux, là, c'est ça?
Oui, mais moi, je m'entraîne pas parce que j'aime ça. Moi, j'aime le résultat de l'entraînement parce que mentalement, je sais pas, vous, quand vous faites du vélo, si c'est la même chose, mais quand je m'entraîne, je ne trippe pas tant que ça. Si c'est en salle ou encore je fais de la course, j'aime pas tant ça, mais c'est les bienfaits de l'exercice physique au niveau mental, au niveau du ressenti par la suite quand on sort du gym ou encore quand on sort de notre course qu'on vient de faire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je respire mieux, que la vie est peut-être un peu plus belle. Je me dis, les gens qui ont des troubles en santé mentale, ça va pas nécessairement bien, des petites difficultés dans la vie. Si ces gens-là se consacraient peut-être une heure à eux à faire de l'activité physique, ça pourrait peut-être déjà mieux aller.
Oui, il faut bouger. Un esprit sain dans un corps sain, on oublie souvent ça.
Ouais,
la sédentarité, c'est pas bon. Mais il y a un gars en fin de semaine qui n'était pas sédentaire, qui s'appelait Pasternak. As-tu vu son but contre Toronto en supplémentaire?
Oui, c'est un but crève-cœur, hey. Maître Bellemare, là. C'est vraiment un but.
Non, je le sais. Je le sais parce que moi, j'aurais voulu que Toronto gagne parce qu'ils ont tellement pitié depuis 67 qu'ils n'ont pas gagné la Coupe. Ils réussissent jamais à passer la première ronde. Puis là, j'aurais pensé que ça aurait été leur tour cette année. J'aurais aimé ça les voir aller plus loin en série. Mais le but de Pasternak, hey, wow! Quand même si Boston, c'est pas mon équipe, là, honnêtement, là, pour reconnaître qu'il y a quand même des beaux jeux en série. Hein.
Ouais. Et tous les joueurs tous les joueurs de Toronto ont dormi sur ce jeu-là, incluant le gardien.
Oui, bien l'autre est arrivé en trombe. Là, c'est sûr que dans un beau but, il y a toujours un joueur qui fait quoi d'extraordinaire. Il y a toujours un coco qui a laissé passer ou deux cocos qui ont laissé passer. Dans tous les buts, c'est toujours pareil, parce que si les défenseurs avaient vraiment été à leur affaire à 100%, ils n'auraient pas compté. Mais regarde, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Hein. Voilà.
Effectivement.
Et souvent dû à leur malheur aussi.
Ouais. Dans les dossiers que je voulais aborder avec vous, Maître Bellemare, ce soir, c'est un dossier que j'ai abordé cet après-midi avec mes collègues dans Marceau le Midi. C'est le dossier de Philippe Charbonneau, qui était de passage en cours au Palais de justice de Saint-Jérôme dans les dernières heures. Ce qu'on apprend de ce gars-là, c'est que, bon, il a 37 ans, et c'est un gars qui était comédien. Il a joué dans le téléroman « Annie et ses hommes », il a joué dans Yamaska, il a joué dans Virginie. Et ce qu'on sait, c'est qu'il a plaidé coupable à une accusation d'attouchement sexuel sur une fillette lors d'un cours de piano en 2015. Et à ce moment-là, il avait écopé d'une peine de 7 mois et demi de prison en 2019 pour des faits similaires sur deux autres élèves pendant la même période. Voulez-vous que je vous dise sa sentence? Quand on parle de sentence bonbon, là, il avait déjà fait quelque chose qui était épouvantable. Il avait fait une victime à vie. Quand on est victime d'agression sexuelle, on l'est à vie. Il avait déjà fait une petite séance en prison. Ben là, le juge vient de le condamner à 12 mois de prison pour avoir créé une autre petite victime. Donc, il est coupable d'attouchement sur une fillette. Et comme il a complété des thérapies, ça a été pris en considération. Fait que ça va être 12 mois de prison à la maison.
Ah, à la maison. Ben ça, c'est sûr qu'un juge qui a prononcé ça, Yannick, mais ça, c'est le résultat, je pense. Je n'ai pas toutes les dates avec moi, mais c'est Trudeau. C'est le gouvernement Trudeau. Avec David Lametti, qui était ministre de la Justice à ce moment-là, qui ont adopté la loi C-75, qui permet des peines dans la communauté, donc à la maison, même pour des cas d'agression sexuelle. Parce qu'avant ça, ce n'était pas possible. Et je sais que les procureurs du DPCP sont tous scandalisés de la situation. Il y en a même un qui a fait une montée de lait il y a quelques mois à Montréal en disant que c'était le résultat de la loi C-75. À mon avis, on devrait abolir cette loi-là. Puis j'espère que si un gouvernement nouveau est élu éventuellement en 2025 et que Trudeau est battu, qu'ils vont abolir cette loi-là rapidement parce que je trouve ça scandaleux que peu importe la condamnation, dans tous les cas d'agression sexuelle, qu'on puisse bénéficier d'une peine dans la communauté. Ça devrait être à l'intérieur des murs. Puis moi, j'irais plus loin que ça. J'abolirais toute forme de libération conditionnelle pour les crimes de nature sexuelle sur les femmes et sur les enfants. Personnellement, là, je trouve que ça n'a pas de bon sens parce que là, c'est 12 mois dans la communauté. Comment tu fais pour vérifier si le gars est vraiment chez eux un matin, toi, pour respecter sa peine de 12 mois dans la communauté? Comment tu fais pour
Ben,
vérifier ça?
j'imagine qu'il y a des
Ça, c'est un peu
appels.
comme les suspensions de permis pour les sous-longs, là. Comment tu fais pour savoir si le gars prend pas le char de sa femme ou de son frère pour se promener en campagne sans se faire pogner, tu sais? Alors, moi, je crois pas à ça, les peines de la communauté. C'est pas assez sévère. C'est certain que c'est beaucoup moins sévère qu'une peine en pénitencier. Moi, au moins, s'il faisait 12 mois en dedans, jour pour jour, on pourrait peut-être dire, ben là, ça commence à avoir du bon sens, mais à cause du caractère communautaire de la peine et à cause de tout le processus de libération qui accompagne toutes les condamnations, permets-moi de douter de la sévérité ici.
Oui, puis ce que la victime a mentionné en cours, c'est que là, maintenant, elle a 18 ans, elle a lu une lettre qui était dont les mots sont très lourds, là. Elle lui dit: « Je ne pourrai jamais oublier tes mains dans ma culotte, tes mains qui tremblaient sur mes parties génitales, ton souffle dans mon cou, ton visage trop proche du mien, tes mains sur mes hanches et mes cuisses, tes frottements dans mon dos et tes bras qui m'entourent pendant que je jouais du piano, parce qu'il était prof de piano. » La jeune victime à l'époque avait 9 ans et aujourd'hui, elle ne s'en est toujours pas remis. Puis de voir que c'est pas sa première condamnation là, pour agression sexuelle, puis qu'on lui donne un an chez lui. T'sais, en pénitencier, c'est parce qu'il y a une heure de coucher, là. T'sais, il y a une heure où on dit: ben garde, on ferme tout, puis toi, tu t'en vas dans ta cellule. Puis il y a une heure de lever aussi, ce qu'il n'aura pas nécessairement dans son appartement ou encore dans sa maison. En pénitencier, la bouffe n'est pas nécessairement idéale, tandis que toi, si tu es dans ton logement, ben tu as accès à peu près à tout, puis tu peux cuisiner ta propre nourriture, puis selon tes propres choix. Il y a comme une punition de plus quand tu es en prison entre quatre murs, mais quand on est en logement, la vie est un peu plus facile, même si on doit être le plus souvent possible, si on ne travaille pas dans notre logement parce qu'on est écopé d'une peine d'un an de prison à la maison. Mais
Bien,
comment on fait pour
non
vérifier ceci?
seulement
Là,
tu
je ne sais pas.
peux, tu bénéficies à peu près de tous les privilèges parce que tu es chez toi, mais tu peux inviter des gens. Tu peux, à certaines conditions, souvent, tu peux sortir, comme par exemple pour aller voir le médecin ou etc. Tu peux trouver 56 prétextes. Mais je te le répète, Yannick, les conditions de surveillance sont déficientes. On n'a pas la même garantie que l'individu va être dans une privation de liberté réelle quand il est chez eux, qui a les clés, puis qui peut sortir, puis qui peut se promener le soir, la nuit. Comment tu fais pour vérifier tout ça? C'est ça qui me choque. Et c'est sûr que ce qui sous-tend le projet de loi qui est devenu une loi, la loi C-75, c'est que la peine de la communauté est aussi sévère qu'une peine de prison. C'est un petit peu ça qui a lancé. Ça, c'était l'espèce de projet de loi qui visait, on en avait parlé en ondes à quelques reprises, c'est le projet de loi, le prétexte de cette loi-là, c'était d'empêcher une surpopulation des Autochtones et des ethnies dans le système carcéral. Ça, c'était le prétexte. Mais en réalité, on sait bien que ce gars-là, dont tu viens de parler, n'est pas un Autochtone, c'est pas un immigrant, c'est pas une minorité, c'est un Blanc comme toi et moi. Et ce gars-là bénéficie de la loi C-75 et d'une peine dans la communauté. Moi, je trouve ça inacceptable et c'est un problème qui relève du Parlement du Canada. Et c'est la loi de Trudeau, avec son gouvernement qui est mou sur le crime, qui combat pas le crime, qui est pas assez sévère, et en plus d'avoir des peines d'une durée discutable, voici qu'on a une peine dans la communauté. Moi, je suis tout à fait scandalisé, je suis comme toi, puis je pense qu'il faudrait éradiquer ce problème-là à la base, à savoir mettre de côté cette loi-là ridicule et faire en sorte que les juges ne puissent pas prononcer des peines dans la communauté, mais qu'il y ait une incarcération véritable, complète. Et je te le dis, là, moi, j'irais jusqu'à abolir les libérations conditionnelles dans ces cas-là, parce que c'est encore un autre élément qui permet de couper, 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 couper. Et finalement, on se retrouve avec une peine qui fait pas honneur au système judiciaire.
En même temps, comment on fait quand on est juge ou avocat pour évaluer les dommages que la victime a eus? Parce qu'on parle d'une agression sexuelle, ça marque ces victimes-là à vie. Comment on fait pour s'assurer que justice soit rendue? Parce que l'idée, c'est que la victime ait l'impression que justice a été rendue, que le public ait l'impression que justice a été rendue. Comment on fait pour évaluer ça?
Bien, là, il faut avoir une certaine préoccupation par rapport au sort des victimes. On sait que maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais c'est maintenant, la victime peut lire au stade de la peine, quand c'est le temps de déterminer la peine, lire une déclaration au juge. La victime n'a pas de statut juridique comme tel dans le procès, en ce sens que la victime n'est pas partie au procès, c'est le procureur de la couronne qui représente l'intérêt public, incluant la victime. Et la défense, elle a droit à un avocat pour interroger, contre-interroger. La victime, elle ne peut pas dire, moi, je veux poser des questions à l'accusé, je veux produire un témoin expert, je veux plaider. Elle ne peut pas faire ça. Il faut qu'elle passe par le DPCP, le procureur du DPCP, qui a tout le fardeau de la poursuite. C'est ce qu'on appelle l'élément d'accusation. Mais elle peut au moins lire un statement. Et évidemment, il y a des victimes qui sont plus percutantes que d'autres. Il y a des conséquences qui sont plus importantes que d'autres. Mais cette petite fille-là de 18 ans qui a eu le courage de traverser tout le processus,
9
qui a
ans.
vécu énormément de préoccupations puis de traumatismes depuis quand même 9 ans, parce qu'elle avait 9 ans, puis elle en a 18, mais il faut que le juge la croie, puis il faut qu'il donne de l'importance, parce que la première condition de réhabilitation puis de retour à une vie normale au plan psychologique, c'est qu'il y ait une peine correcte qui soit prononcée. Les victimes qui sont dans des procès où les peines ne sont pas assez sévères, vivent un traumatisme additionnel. Et souvent, ça va perpétuer la peine parce qu'ils vont avoir un grand sentiment d'injustice. Puis tant que tu vis un grand sentiment d'injustice, tu peux pas surmonter ton traumatisme. Alors, c'est pour ça que la justice criminelle, c'est important. Et avec des lois qui ramollissent tout le temps, puis qui coupent les peines, puis qui ramollissent la sévérité des peines, mais évidemment, on n'aide pas les victimes. Et je sais de quoi je parle parce que j'en ai plein mon bureau, Yannick, et ça depuis 46 ans, des victimes d'actes criminels. Puis je peux te dire que quand tu as des peines qui ne sont pas à la hauteur, c'est un traumatisme direct dans la tête de la victime et qui va rester souvent indéfiniment puisque la peine est prononcée sur une base permanente et définitive.
Maître Bellemare, dans ce dossier-ci, bon, là, il y a eu accusation et la personne a été déclarée coupable. Est-ce que la victime peut avoir de l'aide de l'IVAC, que l'individu soit poursuivi ou non, qu'il soit déclaré coupable ou non? Est-ce que la victime peut avoir de l'aide de l'IVAC?
Oui, il y a l'aide de l'IVAC, puis ça, c'est l'IVAC, c'est indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est un système public qui est un peu à l'image de la Société de l'assurance automobile et de la CNESST, donc qui paye 90 % des pertes de revenus. Le problème qu'on a quand on a 18 ans et qu'on est agressé à 9 ans, c'est que souvent l'IVAC va dire, ben là, à 9 ans, elle n'avait pas de job. Donc, il n'y a pas de remplacement de revenus, il n'y a pas de revenus à remplacer. Si au moment où la 18 ans est aux études, ben, il n'y aura pas non plus de remplacement de revenus parce qu'il n'y a pas de revenus à remplacer parce qu'elle n'a pas de job. Alors, si elle a un emploi puis qu'elle ne peut pas faire l'emploi à cause de son agression, elle va pouvoir bénéficier d'un certain remplacement de revenus. Mais il y a beaucoup de victimes d'actes criminels qui n'ont pas de prestations, comprends-tu, ils ne reçoivent pas de rente ou d'indemnité à toutes les 2 semaines pour remplacer un revenu, ou bien parce qu'ils n'ont pas de job au moment de l'agression, ou bien parce qu'ils n'ont pas de job au moment de l'arrêt de travail, ou bien parce qu'on n'est pas capable de faire la preuve que le problème psychologique est assez important pour l'empêcher de travailler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des difficultés psychologiques, mais qui vont quand même avoir une capacité de travailler. Un traumatisme psychologique, Yannick, là, c'est pas comme un bras arraché ou une hernie discale dans le dos, là. Souvent, ça va permettre à la personne d'avoir apparemment une vie relativement conforme. Ils vont être capables de se déplacer, ils vont avoir un permis de conduire, ils vont avoir un thérapeute, ils vont prendre de la médication, mais ils vont quand même être capables de fonctionner assez pour gagner leur vie. Ce qui fait qu'il y a des victimes d'actes criminels qui ont du remplacement de revenus. Il y en a, et il y en a beaucoup moins que les victimes d'accidents de travail ou d'accidents d'auto.
Et dans le cas d'une victime qui, je ne sais pas moi, la personne qui l'a agressée sexuellement est décédée en raison du fait, bon, c'était son grand-père. Qu'est-ce qu'elle a à produire comme preuve à l'IVAC pour être reconnue comme victime?
Bien, à l'IVAC, t'as pas à faire la preuve qu'il y a une condamnation de nature criminelle. S'il y en a une, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, tu peux faire la preuve autrement. Tu peux faire la preuve en présentant un témoignage crédible qui est appuyé d'un traitement psychologique, par exemple. Tu peux faire la preuve avec une déclaration d'une personne qui aurait eu connaissance de ces agressions-là. Si c'est crédible, si c'est vraisemblable, si ça se tient, surtout si l'agresseur a des antécédents et qu'on est capable d'établir par de différentes façons qu'effectivement cet acte criminel-là est survenu, parce qu'il y a beaucoup d'omerta qui entoure les agressions sexuelles. Souvent, c'est caché, les victimes ont honte, ils se sentent coupables, et c'est très difficile d'obtenir des preuves contemporaines. Mais il n'y a pas de délai pour réclamer pour une agression sexuelle. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, une personne qui a été indemnisée pour une agression survenue il y a 30 ans. Alors, il n'y a plus de délai maintenant, depuis octobre 21, pour réclamer à l'IVAC. On peut aller sans limite de temps réclamer pour un préjudice survenu il y a plusieurs années. Mais la plupart de ces victimes-là, comme je le disais tantôt, n'auront pas nécessairement de remplacement de revenus, parce qu'il n'y a pas de preuve de remplacement de revenus ou il n'y a pas d'emploi, mais ils vont avoir à tout le moins, au minimum, un traitement psychologique, ce qui va leur permettre au moins de traverser cette épreuve-là avec un peu moins de difficultés.
Je regardais, j'étais allé dans le code criminel tantôt, puis j'ai sorti l'article 271 concernant les agressions sexuelles, et ça dit « Quiconque commet une agression sexuelle est coupable, soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans, ou si le plaignant est âgé de moins de 16 ans, d'un emprisonnement maximal de 14 ans, la peine minimale étant de 1 an. » Ou soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de 18 mois ou si le plaignant est âgé de moins de 16 ans ou d'un emprisonnement maximal de 2 ans moins un jour, la peine minimale étant de 6 mois. Est-ce que c'est justement pas ça le problème, le fait que les paliers sont trop bas pour des agressions sexuelles qui sont commises par des adultes, même des adolescents, je veux dire, ça doit être puni là, quand des adolescents font des agressions sexuelles, mais pour ce qui est des adultes, les paliers seraient pas trop bas, 1 an de prison, Maître Bellemare, pour scraper la
Ouais.
vie des gens?
C'est sûr. Mais l'inceste avait été ajusté à 5 ans. Je me souviens le projet de loi C-10 qui avait été adopté par Stephen Harper, le gouvernement Harper, en 2011. Maintenant, tu sais, t'as beau mettre les peines que tu voudras, surtout les maximums. Le maximum que le juge peut prononcer, mettons que c'est 10 ou 14 ans, la jurisprudence, les tribunaux considèrent que le maximum, c'est le pire des crimes commis par le pire des assassins ou le pire des criminels. On n'a jamais une peine maximum. Je pense pas que ça existe même dans l'histoire du droit criminel, mais on a des peines qui méritent d'être plus sévères. Mais ça, c'est les juges qui décident. C'est pas le code criminel qui va dire tout le monde a la même peine. Mais faut que le juge condamne en fonction des faits qui sont devant lui. Puis évidemment, selon que ce soit tel juge ou tel juge, il peut y avoir des variantes. La Cour d'appel, la Cour suprême, nous
Voir
donne un
combler
peu
les
ce qu'on
lacunes
appelle
du
une
droit
fourchette,
mondial,
c'est-à-dire un minimum, un
l'avenir
maximum,
des
essayer de
marques
jouer
du
là-dedans.
monde pour vous faire
Puis
vivre
les
votre
avocats plaident la
sauveur.
cause, puis à un moment donné, ben il y a une condamnation. Mais c'est sûr qu'il faut être plus sévère.
Effectivement, effectivement. Mais parfois, j'espère juste, parce que moi, j'ai pas de. Je suis orphelin politique, moi, Maître Bellemare. Je regarde au niveau fédéral, je regarde aller. Bon, au niveau de la droite économique, je me vois peut-être un peu plus chez les conservateurs. Au Québec, c'est la même chose. Je suis orphelin politique, je me vois nulle part, peut-être au niveau de la droite économique avec le parti d'Éric Duhaime. Mais pour ce qui est d'être tough on crime, il va falloir qu'à un moment donné que les conservateurs reviennent puis qu'ils soient plus durs envers ceux qui commettent ce genre de gestes-là. T'sais. Moi, il y a des choses que je suis capable de pardonner, Maître Bellemare, puis je l'exposais ce midi. T'sais, t'as pas une scène, tu veux nourrir ta famille, tu te fais prendre à voler de la viande au IGA, t'as fait une erreur, c'est impardonnable, mais en même temps, tu te dis, bon, si t'as payé ta dette à la société, tu peux réinsérer la vie sociale, la vie régulière, puis on peut te pardonner à long terme. Mais tu sais, y a pas de vraie victime. T'sais. La victime, c'est l'épicier où lui, il a 30$ qui s'est fait voler, puis peut-être même plus, mais tu sais, ça ne l'empêchera pas de dormir. Tandis que quand tu agresses sexuellement une jeune fille de 9 ans, cette jeune fille-là de 9 ans-là, toute sa vie est hypothéquée, Maître Bellemare. Donc j'espère juste que les conservateurs vont devenir tough on crime, puis ils vont remettre ce que Stephen Harper avait l'intention de mettre lorsqu'il était au pouvoir, puisque les libéraux ont défait. Parce que ça a plus de bon sens. Ça a plus de bon sens.
Ouais.
Un an pour un agresseur sexuel, puis il reste chez eux à la maison. Je veux dire, pour la victime, c'est atroce de savoir que l'autre, il réussit quand même à avoir une belle vie.
Bon, oui, c'est sûr. Puis, tu vois, la charte canadienne des droits et libertés, Yannick, la charte canadienne, la charte fédérale, la charte à Trudeau, parce que c'est Trudeau père qui l'avait introduit et qui l'avait intégré dans la Constitution canadienne en 1982. Cette charte-là, quand tu regardes l'évolution que ça a eue à travers le temps, ça a bénéficié à qui? Ça bénéficie essentiellement aux accusés d'actes criminels. Quand tu regardes, par exemple, l'arrêt Jordan, qui a été prononcé par la Cour suprême en 2016 et qui a eu un effet très important sur notre système judiciaire, où des centaines, voire des milliers d'accusés au Canada ont bénéficié de libération parce qu'ils n'ont pas été jugés dans un délai raisonnable. Ça, c'est l'article 11B de la Charte canadienne. Mais là, voici en quoi la charte bénéficie à des criminels. Quand tu regardes Bissonnette, qui a tué six islamiques à la mosquée de Québec, qui a voulu en tuer six autres, puis qui a regretté de ne pas en avoir tué plus, puis qui bénéficie de 25 ans, mais ça, c'est la Cour d'appel et la Cour suprême qui applique l'article 12 de la charte qui dit que faut pas en venir à des peines ou des sentences cruelle et inusitée. Alors, encore là, c'est toujours la charte canadienne qui vient en aide aux criminels, souvent les pires criminels de l'histoire du Canada, et eux bénéficient de la charte pour obtenir de meilleures conditions, des peines moins sévères, voire, dans le cas de l'arrêt Jordan, des libérations complètes, sans même qu'il y ait de procès, même pour des gens qui avaient été accusés de meurtre prémédité. Alors moi, ça me scandalise. Puis quand j'ai vu la semaine dernière que M. Poilievre, le chef conservateur, avait prononcé une conférence auprès des policiers d'un corps de police du Canada en disant qu'ils n'hésiteraient pas à avoir recours à la clause nonobstant, donc la clause dérogatoire, pour pouvoir faire échec à la charte pour certaines dispositions du code criminel, ben moi, je suis d'accord avec ça. Parce que je me dis, à un moment donné, la charte, c'est bien beau, là, mais on protège qui, là? Est-ce qu'on protège trop les criminels avec cette charte-là, ou on assiste à une évolution des jugements en matière criminelle qui sape beaucoup trop les intérêts des criminels et qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de punir adéquatement les crimes les plus odieux, comme celui qui a été perpétré à la mosquée de Québec? Alors, c'est une avenue à laquelle il va falloir penser. J'étais bien content de voir que le chef conservateur songeait éventuellement à utiliser la clause dérogatoire pour écarter la charte complètement de certains secteurs du droit criminel pour faire en sorte que ce soit la volonté du Parlement du Canada qui soit respectée, les élus, et non pas des juges qui décident qu'est-ce que la charte veut dire pour en venir à des conclusions qui sont nettement favorables aux accusés au niveau de la peine et qui fait en sorte qu'on va donner 25 ans à un gars qui a tué six personnes. Alors qu'il en aurait tué une, il y aurait eu 25 ans aussi. Il en aurait tué 40, il y aurait eu 25 ans aussi. Alors, il y a quand même des limites et je suis content de voir qu'il y a un parti politique sur la scène fédérale qui s'intéresse à la question.
Oui, moi aussi, très heureux de ça. Dans un autre dossier, on parle du dossier d'Olivier Gagnon qui prenait jusqu'à 30 comprimés de méthamphétamine par jour. Le gars faisait, selon lui, des psychoses toxiques à répétition. On le comprendra avec ses 30 comprimés de méthamphétamine par jour. Et dans la nuit du 31 au 1er janvier dernier, ben, le gars a carrément inondé son ex-conjointe de messages textes dans lesquels il l'insultait. Il avait même menacé de mort le nouveau conjoint de son ex, en fait. Et la dame a décidé de porter plainte et le gars va passer dans le tordeur, là.
Oui, Olivier Gagnon, retenez bien ce nom-là. C'était dans le journal Le Quotidien à Chicoutimi. Et ben, c'est ça, il a pété sa coche. Lui, là, il a décidé qu'il allait écœurer son ex menacer même le nouvel ami de son ex. Alors, je cite même chastes oreilles, ne fermez pas le volume. J'ai pitié pour toi, il n'y a personne qui t'aime. Je ne peux pas croire que t'es conne à ce point, sale pute, rince-toi la bouche, tu sens le sperme. Écoute, le juge a dit, ça n'a pas de bon sens, et cet individu-là a été condamné, même après qu'il ait menacé de mort le nouveau conjoint d'une autre femme qu'il fréquentait depuis peu. Le juge Michel Boudreau, félicitations, condamné à 9 mois de prison. Encore là, est-ce qu'il va faire les 9 mois de prison? Parce que là, il y a un journaliste du quotidien qui nous rapporte ça. Est-ce que le journaliste va être à la porte de la prison pour savoir quand est-ce qu'il va sortir? Parce que tu le sais, Yannick, il ne fera pas 9 mois. C'est à peu près sûr qu'il ne fera pas 9 mois. Mais il y a quand même une condamnation de 9 mois de prison. Et moi, là, des gars là, qui s'en vont sur le téléphone, là, puis qui écrivent des bêtises à leur blonde ou à n'importe qui, des menaces, utiliser les nouveaux moyens de communication numérique pour insulter les gens, ça vaut la peine de rapporter ça à la police. Il n'est pas assez brillant pour le faire en cachette. Il le fait de façon très explicite. Alors, il y a aucune raison, puis même si le gars est en thérapie, il n'y a aucune raison de passer à côté de ça. Alors, il avait aussi été, parce que ce n'était pas sa première peine, il avait des antécédents dans un autre domaine quand même, mais par le passé, il avait été condamné à 30 mois de détention. Encore là, on ne nous dit pas combien de temps il a fait. C'est certain qu'il n'a pas fait son temps au complet. Il avait été condamné à 30 mois pour une introduction par infraction. Et il y a une probation de 3 ans à sa sortie de détention, avec plusieurs conditions visant à protéger la victime. Et à mon avis, c'est un jugement qui mérite d'être souligné. Et si vous êtes, là, j'en appelle à nos auditeurs aujourd'hui, si vous êtes victime, surtout les filles, là, de harceleurs, puis d'un coco là, qui vous écrit, puis qui vous dit des bêtises, là, laissez rien passer, plainte à la police. Et ça risque de se retrouver devant le tribunal. C'est pas parce que lui, il a fait il a tenu des propos qui étaient largement excessifs, qu'il a pogné 9 mois, que quelqu'un pourrait pas pogner moins que ça aussi, pour des propos moins nombreux et moins excessifs, parce qu'en soi, t'as pas le droit de menacer qui que ce soit, de harceler qui que ce soit, par des textos, par des sextos ou par des messages courriels, d'aucune manière. Pas plus par les médias électroniques que par la voix humaine.
Maître Bellemare, écoute, j'ai plein de questions à vous poser par rapport à ça, mais est-ce que c'est encore valide, ça? Advenant le cas où la personne ne nous l'écrit pas, mais elle nous le dit en personne, est-ce qu'on a le droit encore d'enregistrer cette conversation-là? Est-ce que c'est recevable en cour? Dans le temps, on me disait que oui, parce que je faisais partie de la conversation, donc j'avais le droit d'enregistrer la conversation avec la personne qui m'insultait, qui m'harcelait. C'est encore valide, ça?
Ben oui, que ce soit écrit ou que ce soit verbal, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut dénoncer des propos, puis tu peux prendre une photo de quelqu'un, même si le fait de prendre une photo, techniquement parlant, sans le consentement de la personne, c'est que tu vas chercher une photo de la personne sans son consentement. C'est un peu une atteinte à l'image, une atteinte à la vie privée. Mais si la personne est en état de criminalité, et que le geste qui est posé ou le propos qui est tenu est illégal et constitue une infraction au code criminel ou une faute au sens du droit civil, moi, je ne me priverai pas, là. Il n'y a pas un juge qui va refuser de considérer ces éléments-là si, effectivement, la photo ou les termes ou les mots utilisés ou un enregistrement sonore ou audio peut établir la faute de la personne et que ça constitue en plus un acte criminel. Go, hein? Parce que les fins finaux vont toujours dire, j'ai jamais dit ça.
Oui, c'est
Mais
ça. Ben, parce que quand c'est pas écrit, quand c'est pas par texto, quand c'est pas par Messenger ou encore sur le truc Instagram, tu sais, on n'a pas de. En faisant des screenshots, on peut pas. Mettons que c'est vocal, mais il y a des applications maintenant qui vous permettent avec votre cellulaire de pouvoir enregistrer une
oui.
conversation. Ça se fait très rapidement. Parfois c'est gratuit, parfois ça coûte quelques dollars. Donc, si vous êtes victime d'harcèlement criminel, ben vous pouvez vous procurer ce genre d'application-là, puis enregistrer quand cette personne-là vous nous appelle, puis ça fonctionne très bien. Puis il y a aussi le fait que si la personne se déplace chez vous, bien, avec vos téléphones cellulaires, vous avez toujours moyen de l'enregistrer assez facilement. Ça ne paraît pas. Vous partez l'enregistrement avec la personne rentre dans la maison, vous placez le téléphone proche de vous et de l'autre personne. Puis par la suite, lorsque cette personne-là s'en va, bien, il vous reste simplement à arrêter l'enregistrement, l'enregistrer, puis le présenter en cours si vous devez vous présenter en cours pour ce salopard-là. Là.
Oui, parce que si c'est simplement ton témoignage, bon, là, il a tenu des propos, il m'a traité de grosse vache, par exemple. Bon, alors là, tu t'en vas en cours, tu dis, il m'a traité de grosse vache. Alors, quand est-ce qu'il vous a dit ça? À quelle heure? Sur quel ton? Quels sont les mots précis qui ont été utilisés? Si la police s'en va voir le gars pour lui dire, avez-vous dit ça? Il va dire non. Alors, tu sais, dans un contexte où, en droit criminel, il faut présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. S'il y a quelqu'un qui dit oui et l'autre qui dit non, il y a de fortes chances que la couronne estime qu'il n'y a pas de preuve hors de tout doute parce qu'il y a toujours un doute raisonnable quant au fait que ces propos-là aient été tenus, surtout s'ils ont été tenus par une personne vis-à-vis une autre personne qui n'a pas d'autres témoins externes, extérieurs. Alors, un enregistrement sonore constitue la meilleure preuve que les propos ont été tenus, puis c'est comme ça que tu vas convaincre la police d'aller plus loin, puis le DPCP d'accuser éventuellement.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNSST, c'est bernardavocat.ca. Bellemareavocat.ca, j'ai dit Bernard. Bellemareavocat.ca. On fait... Maître Marc Bellemare est avec nous, comme à chaque lundi. Maître Bellemare qui est dans son bureau de chez Bellemare Avocat. Vous travaillez donc bien tard, Maître Bellemare.
Ah ben oui, ben là, qu'est-ce que tu veux? Les journées s'allongent, mais pourquoi, mon cher Yannick, et pour nos auditeurs, que ne ferais-je pas?
Allez-vous prendre une pré-retraite à un moment donné?
Non.
Non, il n'y en est
pas. La réponse est claire. Non, des pré-retraites, là, c'est quoi cette affaire-là? Ça veut dire que tu n'es pas en retraite, mais tu n'es pas au travail tout à fait, puis tu es ici, puis tu es ça. Alors, moi, je pense que tu travailles ou tu ne travailles pas, là, puis dans mon cas, ben, j'ai tellement de plaisir à travailler. Des fois, il y a des journées où ça me tente un peu moins, mais disons que c'est pas en fonction de l'âge, ce que je viens de te dire. Tout le monde est comme ça.
Mais il y a beaucoup d'avocats qui travaillent extrêmement longtemps. Là. C'est fini, les avocats. Bon, en fait, c'est pas fini. C'est pas vrai. Il y a des avocats qui prennent leur retraite très jeune, mais il y en a qui peuvent travailler jusqu'à 80 ans. Maître Guy Bertrand, il travaille encore à chaque jour. Là. Il fait encore ses petites affaires avec son bureau, puis sa famille aussi qui l'aide dans le bureau de Bertrand Avocat. Là.
Oui, puis Lucien Bouchard, qui a 84, peut-être même 85, en tout cas tout près, travaille encore dans un bureau à Montréal. Il me disait l'année passée qu'il faisait plus de... Lucien Bouchard ne fait plus de procès, en ce sens qu'il plaide plus, parce que plaider, c'est un niveau un petit peu plus élevé d'exigence au plan cognitif, au plan de la mémoire, de la concentration, de la réaction. Plaider, c'est exigeant parce que c'est comme un combat de boxe un peu. Tu sais, quand t'es dans l'arène, là, faut que tu vois venir les coups, faut que tu sois capable de réagir spontanément, faut que tu aies de l'habileté, faut que tu sois capable de toucher la cible. C'est un peu comme ça pour les avocats, dans le sens que faut que tu sois capable de réagir aux propos, aux objections, faut que tu aies de la suite des idées, faut que tu sois assez vigoureux au niveau des interrogatoires, faut que tu aies de la suite des idées, faut que ça soit intéressant. Faut que tu sois capable de ramasser tes idées, l'esprit de synthèse quand tu plaides, pas que tu t'éternises dans tes propos. Alors, ça demande... Alors c'est ce qui fait qu'il y a des avocats qui, après plusieurs années, en vieillissant, décident de laisser tomber certains aspects de leur pratique pour faire des aspects un petit peu plus faciles, un petit peu plus simples, où il y a moins de risques d'erreur. Alors, c'est le cas de Lucien Bouchard. Je pense que c'est le cas de Guy Bertrand aussi beaucoup. Il y a certainement moins de dossiers litigieux, mais ça ne l'empêche pas de faire de la consultation, donner des avis juridiques, recevoir des gens en entrevue et choisir ses heures et choisir le nombre d'heures qu'il fait par semaine. Mais c'est vrai qu'on a la chance, nous les avocats, même si on a 65, 70, 75 ans, de pouvoir continuer de pratiquer, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça. Tu remarqueras dans la plupart des métiers, dans la plupart des professions, les gens vont arrêter un petit peu plus tôt. Mais les avocats, surtout quand tu es à ton compte, tu es capable de faire un bout de chemin. Puis Non seulement l'âge ne constitue pas un handicap, mais des fois, ça peut constituer un avantage parce que tu as plus d'expérience, tu as une vision plus globale, tu as l'expérience de la vie, tu as l'expérience, tu connais bien l'évolution de la jurisprudence, des jugements de cour. Tu as une connaissance qui va toucher 25, 30, 40, 50 ans d'histoire judiciaire et ça va te permettre d'avoir un propos un petit peu plus pertinent.
On parle maintenant du dossier de Marcel Réaume, qui est un beau parleur. On parle d'un fraudeur récidiviste aussi, qui lui utilisait un stratagème assez particulier. C'est qu'il rencontrait plusieurs femmes à la fois et avec l'argent qu'il avait volé aux précédentes victimes, ben, il utilisait cet argent-là pour entretenir les nouvelles conquêtes avant de les frauder à leur tour. On parle d'un gars qui a été condamné quand même à juste 40 mois de prison et il aurait volé à ses victimes plus de 108 000 $.
Oui, puis la juge Annie Trudel s'est dite estomaquée par les crimes commis par Marcel Réaume, qui a fait 7 victimes, dont 5 anciennes conjointes. Alors, écoute, il marchait le bonhomme, hein, entre 2020 et 2021, c'est un homme qui est âgé aujourd'hui de 57 ans, entretenu plusieurs relations amoureuses avec certaines victimes. L'une d'elles a perdu près de 50 000 piastres en faisant confiance à cet homme qui se dit entrepreneur en construction. La mère monoparentale s'est adressée à la juge pour lui faire part de ses problèmes financiers depuis le passage de Réaume dans sa vie. Madame est honteuse. La mère monoparentale n'a toujours pas été capable de parler à son entourage de sa déroute financière. Une autre victime se sent également coupable puisqu'elle a entraîné sa sœur dans les griffes du fraudeur. Alors, le gars, il développe une espèce de relation amoureuse, hein. Il se fait passer pour, bon, je t'aime, ma chérie, puis tata, puis tata, oh, tu me passeras-tu 1 000 piastres, tu me passeras-tu 2 000 piastres? Puis, il y en a une qui s'est fait demander une avance de 4 000 piastres. Et puis, lui, il se faisait passer pour un pseudo-entrepreneur. J'ai besoin d'argent, j'ai pas de liquidité, peux-tu m'aider, etc. Alors, il s'est retrouvé avec 40 mois de prison et il a été condamné à rembourser 27 300 piastres à ses victimes. Alors, mais là, écoute, quand tu parles de quelqu'un qui a fraudé pour 100 quelques mille, 108 000 piastres, puis t'es condamné à payer 23 000, c'est quand même, on peut pas dire qu'il a perdu de l'argent dans cette affaire-là, mais il va avoir 40 mois de pénitencier parce que plus que 2 ans, c'est forcément un pénitencier fédéral, et puis il va pouvoir penser à ses anciennes conquêtes, puis peut-être être un peu plus respectueux pour les prochaines. Mais ce genre de crime-là, sociologiquement, est intéressant en ce sens qu'il est maintenant reconnu et on va considérer comme c'est des fraudes, hein? Donc des mensonges pour aller chercher de l'argent dans les poches de quelqu'un. Souvent, c'est des gens qui sont dans le domaine de la finance qui vont faire ça, mais ici, c'est des crimes un peu plus amoureux, si tu veux. Mais il y a 30 ans, 40 ans, là, ça se passait, ce genre d'affaires-là. C'est le bonhomme qui arrivait, puis il faisait, bon, il allait chercher une nouvelle conquête, puis passe-moi de l'argent, puis on va avoir un compte commun, puis etc. Aujourd'hui, on réussit à obtenir des condamnations contre ces gars-là, ce qui est un signe que notre justice a évolué, puis dans ce cas-ci, de façon favorable.
Ah, j'ai déjà fait un prêt d'argent à Maître Bellemare, puis c'était un ami en fait qui m'avait approché en me disant, Yann, j'ai des troubles financiers, mon entreprise va pas super bien, j'aurais besoin de temps. Puis honnêtement, Maître Bellemare, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement riche, mais j'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'aider? Et j'avais fait notarier ça. J'avais fait notarier le prêt de 10 000 $ auprès de mon notaire. Puis mon ami m'avait dit, mais Yann, t'as pas besoin de le notarier. Anyway, tu peux être sûr que je vais te rembourser. Mais j'avais besoin d'avoir un papier formel comme quoi je faisais un prêt de 10 000 $. Puis j'avais discuté avec ma conjointe de l'époque qui disait, ouais, mais c'est ton ami, tu peux y faire confiance. J'avais dit, oui, c'est mon ami. Puis la raison pour laquelle c'est mon ami, tu sais, je veux dire, j'y prête le 10 000 $ sans intérêt, puis il va me le remettre sur 5 ans. Puis effectivement, il me l'a remis sur 5 ans, mais au moins, Maître Bellemare, c'était notarié, ce prêt d'argent-là. Ce 10 000 $-là était notarié. Donc, s'il arrivait quoi que ce soit, si je m'étais fait trahir, bien, j'aurais pu récupérer cette somme-là en le poursuivant. Mais il y a tellement de gens qui arrivent en couple avec des nouvelles conjointes, des nouveaux conjoints, qui veulent aider l'autre personne qui a des difficultés financières, qui vont sortir de l'argent de leur poche. Puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont donné genre 20 000 en 2 ans, mais ils n'ont pas de preuve de ça, Maître Bellemare.
Oui. Ah, t'as raison.
Ils n'ont pas
Il
de
faut être
preuves.
capable de prouver que. Puis en plus de ça, tu peux faire des cadeaux, là. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un prêt? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un élastique accroché au chèque, là? La différence est mince, surtout entre les conjoints. Madame ou monsieur prête de l'argent. Moi, j'ai déjà eu un cas d'un gars qui avait prêté à peu près 25 000 piastres à son ex-blonde. Il y a eu une rupture et il n'a jamais été capable de se faire payer. Madame disait, il m'a fait des cadeaux. Et on a réussi à travers les dépenses qui avaient été faites. On avait sorti tous les chèques qui avaient été faits. Monsieur avait payé par chèque quelques fois en argent. Et on est allé en cour pareil à la Cour du Québec. On a gagné. Puis le juge a dit, je crois, monsieur, ça a été des prêts. Et donc c'est remboursable. Et madame a été condamnée à rembourser la somme. Mais la ligne est mince souvent. Puis des fois, les gens iront même pas en cour en se disant, mais qu'est-ce qui fait que je peux être cru plutôt qu'elle, que c'est un prêt plutôt qu'un cadeau. Mais la différence fait en sorte qu'il y en a un qui est remboursable et l'autre qui ne l'est pas.
C'est ça. Donc, toujours notarié, même si c'est des amis, même si c'est notre conjointe ou notre conjoint, ça prend absolument une preuve écrite comme quoi c'est un prêt. Puis moi, dans ce cas-ci, j'avais mis pas d'intérêt. C'était mon ami, c'était quelqu'un que j'appréciais. Il était dans les problèmes. C'est juste que s'il arrivait quoi que ce soit, exemple, il décédait, ben j'étais capable de prouver qu'il m'avait emprunté 10 000 $, puis j'aurais peut-être pu récupérer ça auprès de la succession. Mais dans ce cas-ci, ça a bien été, mais je l'ai notarié. Mais la conjointe de. Ben, ma conjointe de l'époque disait, oui, mais t'as pas besoin de notarier ça, tu sais. Quand il y a une relation, que ce soit d'amitié ou amoureuse, on a comme tendance à dire, ouais, mais je veux pas l'insulter, je veux pas lui dire que je fais pas confiance. C'est pas une question de confiance, c'est une question de respect. Si la personne te dit, OK, tu es assez gentil pour me prêter de l'argent, moi, est assez gentil pour dire au notaire, effectivement, je contracte un prêt avec toi, puis tu me prêtes 10 000 $. Faut toujours que ce soit écrit, puis ça, vous me l'avez souvent dit, faut écrire tout le temps, tout.
Mais toi, tu es allé chez le notaire, tu as été un peu zélé, là. C'est correct, parce qu'un papier, ça aurait suffi, mais effectivement, le notaire, il a une formulation particulière, il est habitué de faire des textes, c'est plus béton, c'est plus sûr, parce que des fois, tu vas faire un papier, d'abord, un papier, ça se perd. Un notaire, ça accumule les minutes qu'on appelle, une minute, c'est un acte notarié dans ses registres, donc c'est perpétuel, alors qu'un papier, ça peut se perdre. Des fois, tu peux avoir une formulation qui est un petit peu plus douteuse et peut-être qu'un juge va dire, bien écoutez, M. Marceau, votre papier, il est pas assez bien écrit, vous n'avez pas prévu telle ou telle hypothèse, alors que le notaire, il va te conseiller. Ça a été quand même une bonne idée, puis c'est probablement pour ça que tu n'as pas perdu.
Ben, en fait, il est toujours mon ami aujourd'hui, puis son entreprise va bien. C'est juste qu'il y avait eu des troubles dans le temps, puis je voulais l'aider. On appelle ça du love money, mais en même temps, il m'aimait assez pour venir avec moi chez le notaire, puis moi, j'avais d'autres choses à faire chez le notaire aussi à ce moment-là. Fait que j'ai joint l'utile à l'agréable. On parle du dossier de Marcus Niméri, qui a réussi à passer en cour avec son avocat, et ils ont essayé de faire passer comme quoi se faire fouiller la bourse masculine, donc la sacoche masculine, c'était discriminatoire, alors que la justice dit non, 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 la sacoche d'un homme, fouiller la sacoche d'un homme, ce n'est pas discriminatoire.
Oui, c'est ça. Et puis, tu vois, je te disais tantôt que les chartes, ça mène à toutes sortes d'abus, puis toutes sortes d'arguments plus ou moins farfelus et excessifs, à mon avis. On vit dans un monde de chartes. Alors, lui, ce qu'il plaidait, ce monsieur-là, dont la sacoche a été fouillée, c'est que ce sont surtout des gens racisés, dont les Noirs et les Arabes qui sont susceptibles de porter des man purse. Des man purse, c'est une sacoche pour hommes. Je n'ai jamais porté ça, là, mais je sais qu'il y a des gars qui en portent. Donc, appelons ça une sacoche pour hommes. Alors, lui, ce qu'il disait, c'est que ce sont surtout les Noirs et les Arabes qui portent des sacoches. Alors, compte tenu de ça, quand tu fouilles une sacoche, tu fais du profilage. Alors, de un, moi, je te dirais que c'est pas vrai que c'est juste les Arabes et les Noirs qui portent des sacoches. Il y a beaucoup de Blancs qui en portent aussi.
Ouais.
Ça n'a rien à voir avec la race comme telle. Mais en plus de ça, le gars voulait pas se faire fouiller. Parce que quand on l'a fouillé, on l'a trouvé, sais-tu quoi, dans sa sacoche, une arme de poing prohibée dans un sac à bandoulière de type « man first ». Dans sa sacoche, il y avait un pistolet Glock 19 et un chargeur contenant 10 cartouches de calibre 9 mm. Hey, je peux te dire qu'il n'y avait pas une cause sympathique, là?
Non, puis c'était pas
Mais
un
le
enfant
juge
de
aurait pu
13.
dire, effectivement, c'est une fouille, je ne sais pas, peut-être la sacoche était un petit peu rondelette, là, puis qu'ils ont eu des doutes. Mais ils ont voulu fouiller, puis ils ont trouvé ça, puis le gars, il invoque ça après coup. Tu sais, ce n'est pas une fouille aléatoire, là, où on a dit, OK, toi, tu es un arabe ou un noir, puis effectivement, on va fouiller, puis on n'a rien trouvé. Ou auquel cas, il y aurait peut-être une meilleure cause parce qu'il n'y aurait pas eu de raison de fouiller. Mais on a décidé de le fouiller, puis on a trouvé ça. Puis selon la preuve non contredite des deux policiers, sur les 30 saisies d'armes de poing qui ont été faites, 80% de celles-ci étaient dissimulées dans des sacoches. Alors, je ne sais pas si on doit conclure qu'il y a davantage de gens qui portent des sacoches pour pouvoir cacher des armes. Mais c'est sûr que si tu te promènes avec un gun dans tes poches, ça va faire une belle boursouf, là, tu sais. Et puis, c'est pesant dans une poche, mais dans une sacoche, ça paraît moins, ça peut peut-être passer plus facilement. Alors, le juge Denis Galiastatos a dit qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui, que ce sont surtout les Noirs et les Arabes qui portent des sacoches, et il dit ceci. Si les jeunes hommes sont mécontents de l'attention que les sacoches attirent de la part des policiers, ils n'ont qu'à ne pas en porter. Cet accessoire de mode n'est aucunement relié à la culture, à l'identité ou à l'intégrité de la personne, dit-il dans son jugement. Depuis des décennies, les hommes se débrouillent bien sans sacoche. Qu'ils soient sans crainte, les portefeuilles continuent à exister, les poches de pantalon et de manteau aussi. Non, mais garde, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, les chartes, hein, non, 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 les sacoches, t'as pas le droit de me fouiller, j'ai le droit de mettre n'importe quoi, une bombe dans ma sacoche, t'as pas le droit de me fouiller parce que je suis un peu foncé, c'est ridicule.
Mais c'est
En tout cas, le
complexe.
juge a pensé comme ça, et bravo, monsieur le juge, d'avoir réfuté du revers de la main ce type d'argument farfelu.
Mais c'est complexe, hein, le droit, puis c'est la raison pour laquelle il y a des hommes et des femmes tels que vous qui l'étudient longtemps, puis j'imagine que vous n'apprenez encore aujourd'hui dans votre métier. Mais juste les interceptions dans le temps. T'sais, là, je sais qu'il y a eu un petit changement. Là, on parlait de fouilles aléatoires qui étaient possibles maintenant sur la route. Puis là, après ça, on est revenu à non, ça c'est illégal, ce type d'interception-là. Mais moi, je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait des policiers qui me disaient, pour qu'on puisse fouiller un véhicule, il faut qu'on ait des motifs raisonnables de croire que. Faut qu'il y ait au départ, par exemple, pour intercepter un véhicule, il faut qu'on s'aperçoive que le véhicule, bon, on a rentré sa plaque. Bon, jusque maintenant, sa plaque est correcte. On est à Beauport, il habite à Beauport, OK, pas de problème. Mais là, je remarque qu'il nous voit de gauche à droite. Donc là, je peux présumer que l'homme qui est en train de conduire ce véhicule-là n'est pas en état de le faire. Donc là, on allume, puis let's go, on s'en va voir qui est dans ce véhicule-là, parce qu'on puis on l'intercepte et on lui demande si quelques questions. Si on constate qu'il sent l'alcool, ben là, on peut le faire sortir du véhicule. Puis là, ben on s'en aperçoit qu'il est complètement sous. On le met en état d'arrestation et là, on peut fouiller le véhicule à grandeur. Mais il y a des étapes, il y a une gradation. Tu sais, j'imagine que le gars, quand il s'est fait arrêter, Maître Bellemare, c'est pas par les policiers, c'est pas hey, montre-moi qu'est-ce qu'il y a dans cette sacoche-là. Les policiers devaient avoir une raison de croire que ce qui se passait là, c'était pas tout à fait légal. Donc, ils ont intercepté l'individu et ils ont regardé ce qu'il y avait dans sa sacoche masculine.
Ouais, c'est ça. Puis c'est l'association facile entre la sacoche et l'ethnie, en disant que c'est un symbole qui est associé automatiquement, intimement, systématiquement à une race ou à une couleur de peau. C'est complètement ridicule. Et moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est cette espèce de dérapage associé aux chartes, là, tu sais. Je comprends qu'on puisse interdire la discrimination basée sur le sexe, là, tu sais. On peut, par exemple, qu'on interdise qu'on n'embauche pas des femmes plutôt que des hommes dans des emplois où tout le monde peut travailler, c'est dégueulasse. Qu'on interdise à un handicapé qui présente une boiterie, par exemple, une incapacité de travailler comme comptable dans une firme de finance, c'est aussi inacceptable. Mais là, on est rendu loin dans l'application des chartes, et c'est ce que je te disais tantôt, je trouve qu'il y a un dérapage. On est rendu dans un monde où tout est interdit, tout est contestable et il y a une quantité phénoménale de jugements qui sont rendus, d'arguments qui sont invoqués sur la base des chartes. Et je pense qu'on a atteint un niveau plutôt ridicule dans plusieurs dossiers. Et c'est ça que je dénonce. Et je pense qu'il va falloir s'y attarder. Puis le recours à la clause dérogatoire pour, dans un certain nombre de lois, écarter l'application des chartes, je pense qu'on est rendu là parce qu'il y a trop d'abus. Il y a un député, il y a quelque temps, qui me racontait qu'en Ontario, il y a, tu m'as sûrement entendu parler dans tes nombreuses heures de dialogue avec les auditeurs. En Ontario, il y a quelqu'un qui s'est fait poser un deuxième sexe et qui a été capable de le faire payer par le gouvernement ontarien sur la base des chartes, encore une fois. Tu sais, à un moment donné, là, c'est rendu que ça n'a plus de bon sens. Et je pense qu'il va falloir mettre un frein à ça. Puis la seule façon de mettre un frein à ça, c'est de soustraire l'application de la charte à un certain nombre de cas.
Ben, Bellemare, on termine avec ça. Il reste à peu près 1 à 2 minutes. Le juge qui a encore une fois menacé Donald Trump de le mettre en prison pour outrage au tribunal. C'est le juge, c'est le fameux juge qui préside les débats au procès pénal de Donald Trump. Ça s'est passé à New York. Et là, il a dit, Monsieur Trump, je veux pas vous mettre en prison parce que vous êtes un ancien président américain et probablement le futur président des Américains. Mais si vous arrêtez pas de faire des outrages au tribunal, je vais être obligé de vous mettre en prison. Et là, on lui a donné une autre amende de 1 000 $, ce qui est ridicule pour Donald Trump, là, une amende de 1 000 $. Mais faudrait pas que le juge fasse l'erreur de mettre Donald Trump en prison, Maître Bellemare, parce que ça serait encore plus catastrophique pour l'équipe de Joe Biden. Ça va rendre Donald Trump encore plus populaire. Les partisans de Donald Trump vont être encore plus fâchés. C'est rendu un cirque. Puis j'en parlais ce matin avec la gang du midi. J'en parlais ce midi sur les ondes de Boulevard. J'ai hâte à la fin du mandat de Trump. J'ai hâte dans 4 ans pour qu'on puisse passer enfin à d'autres choses, avoir des hommes et des femmes de 50, 60 ans qui peuvent être là encore pour un bon 8 ans, qui ne ressemblent pas à Joe Biden et Donald Trump.
Oui, c'est sûr, mais je me demande si Trump ne court pas après, parce qu'il était condamné pour outrage, il ne rentre pas tout seul dans sa cellule, là. Ils vont être une dizaine. Hein. Il y a le garde du corps, il y a le chauffeur, il y a tatata, parce que les anciens présidents, comme les anciens premiers ministres du Québec et du Canada, ont des protecteurs. Hein. Ils peuvent se déplacer avec une certaine protection, une certaine sécurité, même s'ils ne sont plus en fonction. Aux États-Unis, l'équipe est encore plus grosse. Alors, ça va y prendre une prison à lui tout seul. Et ça serait le hit de l'année. Puis lui, tu le sais, hein, plus il y a des problèmes, plus il est victimisé et plus il y a une frange importante de l'électorat qui sympathise avec lui. Et j'ajouterais à cela l'impact médiatique considérable. Qu'est-ce que tu veux quand tu es candidat en politique? C'est être vu, entendu, lu, commenté par les favorables, par les défavorables. Alors ça, Trump, pour lui, imagine-toi si ça arrivait. Alors, juste le fait que le juge le menace, je suis convaincu que ça a un effet sur les sondages et que ça amène à CNN, à soir, demande-toi pas de quoi ils vont parler, même si c'est une télé démocrate, ils vont parler de Trump.
Oui. Puis pour ce qui est de Joe Biden, quand on le regarde sur les canaux généralistes, c'est vraiment, on voit un Joe Biden qui est immobile, qui est capable encore de s'exprimer convenablement. Mais quand on regarde sur Twitter des images vidéo qui sont tournées où Joe Biden va aller visiter des gens, le monsieur a vraiment de la misère à se déplacer. Il a vraiment vieilli en 4 ans. En tout cas, durant du mandat, il a vraiment vieilli. Puis quand il se retourne, on ne sait pas trop si il sait encore exactement à quel endroit où il est, là. Ça semble extrêmement pénible pour Joe Biden, sa fin de mandat. Puis j'ai pas hâte de voir comment ça va être. En fait, j'ai pas hâte de voir si on va avoir des débats, là. Les débats des deux ensemble, ça pourrait tourner au cauchemar pour ce qui est de Joe Biden, là.
Oui, exactement. Mais je pense qu'il n'y aura pas de débat. Si Biden est en avance de par 3-4 points d'un sondage, il n'y aura pas de débat. Parce que s'il y a un débat, il sait ce que ça va donner. Trump va se payer la traite sur lui. Puis notre ami Biden, qui n'est pas très fort cognitivement, il risque de se tromper, il risque de faire des erreurs, il risque de mal paraître. Et ça pourrait favoriser Trump. Fait que là, c'est à savoir s'il va y avoir des débats. Moi, je serais surpris qu'il y en ait. D'après moi, il va dire, écoute, on n'a pas besoin de ça, mais pour ça, il faut qu'il soit en avance d'un sondage, parce que si c'est Trump qui domine, il n'y aura pas le choix que de faire les débats pour augmenter ses chances de devenir le futur président.
Maître,
47e, je pense. Hein?
Oui, Maître Bellemare, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se reparle lundi prochain.
Parfait. Bonne semaine, tout le monde. Merci, Yannick.
Merci, bye-bye. Pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, c'est bellemareavocat.ca. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Max s'en vient dans les prochaines minutes. Et nous, on se reparle demain, 11h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.